Imaginez, écrivez, cherchez, y a-t-il plus belle déclaration d'amour ?
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain.
Pascal Paradou.
Est-elle femme, est-elle esprit, rêve, muse ? Charles Baudelaire, l'un ou peut-être le plus grand poète français dont on célèbre le 200e anniversaire, a vécu un grand amour avec une femme mystérieuse dont la beauté palpite encore dans certains de ses poèmes. Qui était la muse ténébreuse de Charles Baudelaire ? Raphaël Confiant tente de percer cette énigme avec son nouveau roman. Bonjour Raphaël Confiant.
Bonjour.
Votre enquête romanesque a-t-elle porté ses fruits ? Ou va-t-on être déçu ?
Non, je laisse le lecteur se plonger dans l'ouvrage, ça serait trop simple de lui dire tout de suite. Mais puis chacun se fera son idée de toute façon. Hein, parce que...
Mais cette Jeanne Duval, puisque c'est son nom, est floue quand même. Et je dis c'est son nom, elle a porté de nombreux noms, elle est multiple, elle est floue et multiple en même temps.
C'était une volonté de sa part de masquer son identité. Elle a joué en fait sur une multitude d'identités. Et je crois que c'est ce qui lui a permis de survivre dans un monde, et à une époque surtout, n'oublions pas que nous sommes dans la première moitié du 19e siècle et que l'esclavage n'est pas encore aboli, et qu'il ne sera qu'en 1848. Donc elle a vécu dans une période où les seules femmes noires qu'il y avait à Paris, c'étaient les servantes des grands planteurs de canne à sucre antillais qui venaient en villégiature pendant 2-3 mois à Paris, louaient des hôtels particuliers, et ils dépensaient leur fortune avant de revenir dans les îles. Donc les seules femmes noires que les Parisiens pouvaient voir, c'était celles-là. Et soudainement, on en voit une, pas tout à fait noire, grande, les cheveux très frisés, une chevelure extravagante, et qui est présente dans tous les cafés où se pressent les écrivains, les poètes, les sculpteurs, les peintres, les photographes, et qui en imposent. Alors, même les femmes parisiennes n'avaient pas accès à ce monde-là. Alors, certaines avaient des salons, mais les salons, c'est dans des maisons, c'est fermé. Mais en public, voir jeunes, assises, à côté de Baudelaire, de Théophile Gautier, de tous les autres et tout, imaginez le spectacle. Surtout pour une femme qui n'est pas une Française, d'apparence en tout cas.
Vous l'appelez Jeanne, mais elle s'est appelée aussi Dorothée, ou au théâtre, parce qu'elle a été un peu péripatéticienne et un peu comédienne, elle s'appelait Mademoiselle Berthe. Donc elle avait différents noms de famille et différents prénoms.
Oui, tout à fait. Elle a été une théâtreuse, comme on disait à l'époque. Son premier métier, ça a été d'avoir des petits rôles de soubrette ou de sorcière africaine. D'ailleurs, c'est à cette occasion que Baudelaire l'a rencontrée. Hein. Baudelaire va voir une pièce de théâtre assez médiocre avec un ami. Et à un moment, on voit apparaître une géante noire avec des cheveux extravagants et qui ne prononce qu'une phrase. « Madame est servie ». Et la salle éclate de rire. D'ailleurs, son rôle, c'était de faire la salle éclater de rire. Et la seule personne qui n'éclate pas de rire, qui reçoit une espèce de coup de foudre, c'est Baudelaire. Et son ami, tu ne comprends pas, parce que tout le monde rit de cette géante bizarre, cette sorcière africaine qui dit « Madame, mais pas lui ». Donc le coup de foudre commence à ce moment-là.
Mais ça, c'est le mystère de l'amour. Mais il y a aussi le mystère de la naissance pour Jeanne Duval, parce qu'elle est née où ? Là aussi, elle brouille les pistes.
Oui, alors, elle brouille les pistes. Je pense que c'est une manière de survivre dans un monde, comme je l'ai déjà expliqué, où elle est quand même une anomalie. C'est une anomalie. Cette femme libre... qui vit de ses charmes. Hein. Elle n'était pas péripatéticienne, puisque péripatéticienne, c'est quelqu'un qui est au sens étymologique qui est sur le trottoir. Hein. Mais elle était employée de maison de tolérance, je dirais.
Et, bon, nuance importante.
Oui, mais... parce que bon... elle n'a jamais cessé... Elle avait une liberté sexuelle extraordinaire pour l'époque aussi. Hein. Et donc, ça fascinait aussi Baudelaire, hein, cette espèce. Parce que lui, il voulait faire éclater les codes. C'est quelqu'un qui, comme l'on sait, il était l'un des initiateurs de la vie de Bohème, quoi. Hein. Il avait été envoyé à Paris par sa famille pour étudier le droit. Et puis tout de suite, il a laissé tomber. Et puis il a commencé à mener une vie de barreau de chaise, en fait. Hein. Et à fumer de l'opium, du dawamesque, en fait, toutes ces sortes de substances. Et ils étaient faits pour se rencontrer. C'est ce que les surréalistes appellent le hasard objectif, je pense.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Elle est née où ? Est-ce qu'elle est haïtienne ? Est-ce qu'elle est réunionnaise ?
Ça serait la trahir que de dire elle est née où. Elle est née partout. Parce qu'elle représente ce qu'on appelle l'identité multiple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse l'assignation identitaire. Cela nous... comment dirais-je ? Nous rappelle bien des choses aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la mondialisation fait que nous n'échappons à aucune culture. Avec l'Internet, nous sommes immédiatement connectés au monde entier. Donc nous avons beau dire que nous sommes dans notre petit clocher, mais nous allons manger chez le chinois du coin, nous achetons la pizza italienne, etc. Enfin, nous écoutons le rock américain ou le R&B. Enfin, je veux dire que c'est bien beau de dire je suis d'un petit clocher, mais dans sa vie quotidienne, quand on regarde ce qu'on mange, ce qu'on écoute comme musique, etc., c'est multiple. Donc elle est pour moi la préfiguration de ce que nous appelons aujourd'hui l'identité multiple.
Oui, cela doit vous ravir, vous qui pensez que justement personne n'est défini par une seule identité. Vous dites personne n'habite une seule identité.
Non, non. C'est-à-dire que c'est plus vrai encore aujourd'hui qu'à son époque, évidemment. Parce qu'à son époque, les peuples vivaient relativement isolés les uns des autres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je dis qu'elle a préfiguré ce monde-là. Elle a refusé en tout cas l'assignation identitaire. Tu es une femme, tu restes dans ton coin ? Non. Tu es de couleur, donc tu as... Non. Elle refusait toutes les assignations que la société pouvait lui imposer. Et ça, c'est quand même admirable. Moi, ça m'a quand même beaucoup frappé de voir que cette résistance à toutes les formes d'assignation.
Mais comment expliquer, Raphaël Confiant, qu'elle soit si peu connue ? Parce que vous m'avez fait découvrir ce personnage dont on ne sait pas le lieu ni la date de naissance, on ne sait pas davantage quand est-ce qu'elle est morte, ni même où on s'est enterré, où elle est enterrée. Grâce à vous, on sait quand même des choses assez précises, qu'elle avait 12 paires de chaussures, c'est ce que vous racontez dans le roman. Oui. Et puis, il y a cette image, ce visage qui a été immortalisé par Nadar. On est aussi à l'époque de l'invention de la photographie.
Absolument.
Mais malgré tout cela, on sait peu de choses. Pourquoi ?
Alors, je pense qu'il y a eu un processus d'invisibilisation, si je puis dire, d'occultation, parce qu'elle a peut-être occupé une place que les critiques littéraires ne voulaient pas reconnaître. Parce que ce n'était pas simplement la compagne de Baudelaire pendant 15 ans. Ce n'était pas un simple objet sexuel exotique. C'était quelqu'un qui servait aussi de scribe. Et souvent, Baudelaire aimait créer des poèmes verbalement, mais il ne prenait pas la peine de les écrire. Et elle les écrivait et elle lui donnait quelques jours après. Alors, quand il se bagarrait, elle ne lui donnait pas, c'était pire. Parce qu'il se bagarrait tout le temps. Ils ont eu 50 ruptures et 50 réconciliations dans des conditions tout à fait rocambolesques. Mais je pense que sans Jeanne, Baudelaire aurait été un poète de talent, mais il n'aurait pas été un poète génial.
Et malgré tout, on l'oublie.
Alors, l'oubli parce que... n'oubliez pas que c'est un scandale à l'époque, comme je l'ai dit. Hein. Ce couple est une espèce de couple un peu scandaleux. Quand ils se promènent dans Paris, imaginez que les gens leur lancent des avanies, des injures, des cris de singe en direction de Jeanne et tout. Et tout a été fait pour invisibiliser. Et au bout d'un moment, à force d'invisibiliser, elle devient invisible.
Raphaël Confiant, je comprends que ce personnage attire votre curiosité et votre intérêt. C'est un personnage éminemment romanesque dont vous racontez la vie et la passion avec Baudelaire. Et d'ailleurs, les deux voix s'entendent dans votre roman. Mais à cette heure-ci, j'en rajouterai une troisième dans cette émission. En tout cas, c'est celle de Adrien Gallo qui sort un album solo, Là où les saules ne pleurent pas. Adrien Gallo, c'est le chanteur des Bébés Brunes.
Thank you. Par hasard, nos mains se touchent quelquefois. Mais à l'ordinaire, l'un aime l'autre et l'autre un autre. Nos regards ne se décroiseront pas. Tout n'est que poussière quand l'un aime l'autre et l'autre un autre. Il y en aura des qui pour toujours s'en iront en claquant la porte. Oui, mais combien d'autres qui tant de temps resteront gravés à nos fortes. D'aventure, nos mains ne se lâcheront pas. Mais à l'ordinaire, l'un aime l'autre. De ne jamais avoir le choix. Tout n'est que misère quand l'un aime l'autre et l'autre un autre. Il y en aura des qui pour toujours s'en iront sans même une larme. Oui, mais combien d'autres qui tant de temps resteront.
L'un aime l'autre et l'autre un autre sur RFI, c'est le triangle amoureux d'Adrien Gallo. Raphaël Confiant est notre invité aujourd'hui pour son nouveau roman La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire, et l'on parle encore d'amour. On sait très peu de choses de Jeanne Duval, on l'a dit, Raphaël Confiant, la belle mulâtresse comme l'appelle le poète, mais vous donnez corps à cette passion qui a duré 15 ans avec des éléments très précis. Je reviens sur les 12 paires de chaussures parce que ça m'a frappé cet exemple-là. Vous nous racontez aussi qu'ils font l'amour 4 fois par jour. Quelles sont vos sources ? Est-ce que tout cela est vrai ou c'est la fiction romanesque et l'auteur Raphaël Confiant qui prête vie à ces deux personnages ?
Et pour l'essentiel, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, nous avons ce miracle qu'est l'Internet. Je sais qu'il produit des horreurs, les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Ça produit aussi des choses magnifiques comme Gallica. Grâce à Gallica, on peut avoir accès en un clic de souris à toutes sortes de documents qui autrefois nécessitaient d'aller en bibliothèque et de rester des semaines et de remplir des fiches et de fouiller dans des documents. Donc j'ai abondamment travaillé à partir de Gallica, à partir d'articles universitaires aussi, à partir de tous les ouvrages réunionnais, mauriciens et haïtiens qui se réclament d'elle.
Oui, parce qu'elle est née pour chacun dans le pays où on écrit.
Chacun dit non, c'est de chez moi, avec tous les arguments à l'appui.
Donc vous, Martiniquais, vous dites qu'elle est martiniquaise, Jeanne Duval ?
Non, pas du tout. Bon. Je ne veux quand même pas exagérer. Elle vient de 3 îles, mais enfin, elle est créole. C'est-à-dire que toutes ces îles que je viens de citer partagent à peu près la même culture, un peu comme on dit les cultures romanes ou latines, il y a les cultures créoles. Elles ne sont pas identiques comme la France n'est pas identique à l'Italie, mais enfin bon, il y a une proximité très forte. Donc cette femme est une femme créole, des îles, et donc il y a une part d'imagination. Évidemment, par exemple, dans les dialogues ou dans les descriptions de scènes de paysages ou de scènes de café. Mais j'ai essayé de rester au plus près des documents que j'ai trouvés. Alors j'ai un énorme regret. C'est que toutes les lettres adressées par Baudelaire à sa mère, que l'on trouve sans problème, celles dans lesquelles elle parlait de Jeanne, sa mère les a détruites.
Ah oui, donc même au sein de la famille Baudelaire, la liaison fait scandale.
Mais ils lui ont mis le couteau sous la gorge. Il lui servait une rente. Et son beau-père, d'ailleurs, l'a exilé dans l'océan Indien. Parce qu'il menait cette vie dissolue. Au lieu de faire son droit, il commençait déjà à fréquenter les artistes et tout. Et son grand-père l'expédie aux Indes. Et le bateau subit une tempête terrible et puis finalement est obligé d'accoster dans 2 îles, Maurice et La Réunion. Et donc c'est là qu'il a son premier contact avec l'univers tropical, avec la nature tropicale, les femmes des îles, etc. Et donc, Ce premier contact n'est pas un contact superficiel, c'est pas de l'exotisme superficiel, parce qu'à l'époque commence déjà l'exotisme superficiel. comme je le dis souvent, c'est l'époque des grandes foires universelles où il y a des zoos humains, où on met des papous, des canaques dans des cages, des Indiens d'Amérique, puis la population vient les regarder, une espèce d'exotisme malsain.
C'est l'époque de la Vénus hottentote.
Voilà, exactement, de la Vénus hottentote. Et donc, il y a une espèce d'animalisation du corps féminin indigène. Hein. Et quelque part, Baudelaire, même si son exotisme n'est pas un exotisme bête et méchant, il n'échappe pas totalement, parce que nous n'échappons jamais totalement à l'air ambiant, je dirais, de notre époque. Et quelque part, dans certaines de ses descriptions, il y a... Bon, Jeanne est présentée quand même comme étant une puissance féminine un peu... Je ne dirais pas bestiale, c'est trop fort, mais... Presque animal, je dirais.
Mais de quelle nature est leur relation? Parce que vous nous avez raconté le coup de foudre, il la voit au théâtre, ensuite il la croise dans la rue, elle se fait enquiquiner par des ivrognes, il va à la castagne et il la sauve, et il l'emmène aussitôt chez lui.
Alors, c'est tout à fait bizarre.
Ensuite il va l'installer sur l'île Saint-Louis, dans un appartement à deux pas de chez lui.
Tout à fait bizarre comme relation, parce qu'il y avait très peu de chances qu'il rencontre Jeanne à nouveau, sauf à retourner dans ce théâtre miteux, où il ne voulait d'ailleurs pas aller. C'est son ami qui l'a convaincu d'aller. Donc, il n'y avait quasiment aucune chance. Et qu'il la rencontre par hasard à l'entrée d'une taverne où elle se fait castagner, enfin, elle se fait tabasser par deux ivrognes, il ne l'a pas reconnue d'emblée. Hein. Alors, qu'est-ce qui a pris à ce type pas très costaud de vouloir séparer cette bataille et de tomber sur Jeanne et d'abandonner l'ami avec qui il était et de partir immédiatement avec elle? C'est quand même curieux, quoi. Alors, bon... certains disent, enfin ses parents, les parents de Baudelaire disaient qu'elle était ensorcelée, c'est une sorcière des îles, tu peux pas être attaché à cette femme, elle a dû te faire un vaudou, elle a dû te faire... Et donc ils lui ont coupé les vivres à un moment, et à ce moment-là, ses vivres étant coupés, une vie difficile a commencé pour Baudelaire, parce qu'il fallait qu'il fuie les créanciers, qu'il change de logement parce qu'il était incapable de payer ses loyers, enfin... Ça a été très difficile à changer près d'une trentaine de fois de logement.
Mais c'est une passion de façon incontestable.
Ah oui, dévorante.
Entre les deux, dévorante. Ah oui. Elle est jalouse tout en étant volage. Ah vous oui, dites oui. qu'elle avait un tempérament de cheval. Oui. Il est mélancolique. Elle ne l'est pas. Ils se disputent là-dessus. Mais ils se retrouvent. C'est vraiment quelque chose de... ténébreux, la muse ténébreuse. Voilà. C'est une passion ténébreuse.
C'est une passion ténébreuse parce qu'elle est faite d'amour-haine, en fait. Elle est faite des deux. Elle est faite de violence et de tendresse. Elle est faite d'incompréhension et de fusion. Il y a un côté fusionnel quand même, mais il y a quand même une incompréhension qui demeure entre les deux parce qu'ils viennent de deux mondes complètement différents. Puis elle n'est pas une artiste, c'est pas une poétesse, c'est pas une peintre, c'est pas une photographe. C'est quelqu'un qui est hors de ce monde et qui s'impose dans ce monde.
Je voulais vous demander, Raphaël Confiant, si, écrivant ce livre, elle vous avait passionné, c'est évident, mais si lui aussi vous intéressait en tant que poète. Où est-ce que vous le placez dans votre panthéon, Baudelaire, Raphaël Confiant?
Ben, Baudelaire, de toute façon, c'est au niveau poétique le plus grand de son siècle. Hein, parce que, bon, je m'en tiens au découpage Lagarde et Michardien, même si c'est un peu ringard. Et chaque siècle, là, François Villon, c'était extraordinaire, mais dans son siècle. Hein. Bon, je pense qu'au XXe, c'est Éluard. Enfin, ça, c'est moi. Hein. Je dis que chaque siècle, alors, Saint John Perse aussi est Éluard. Bon. Alors, pour le XIXe, il est évident qu'il a révolutionné l'écriture poétique. Mais je tiens à dire quelque chose. Baudelaire aurait été un poète de talent sans Jeanne, mais il ne serait pas devenu le poète génial qu'il est devenu sans elle.
Baudelaire est devenu, en effet, vous l'avez dit, Raphaël Confiant, un repère, une référence qui est agissante encore aujourd'hui. Le rappeur Abdelmalik le cite souvent. Il a même fait un spectacle et un disque, Le Jeune Noir à l'épée, où il mêle ses textes et les siens.
Baudelaire, il travaille, d'une certaine manière, à magnifier le laid, en tout cas à rendre beau une forme de laideur ou la laideur tout court. Et moi, j'ai grandi dans un endroit où c'était laid, où on était considéré comme des laids. Et malgré ça, on a écrit pour dire ce que vous croyez être laid n'est pas si laid que ça. On a cherché la beauté dans ce qui n'était qu'apparente laideur. Et en ce sens-là, il y a un cheminement en commun. Mais il y a aussi cette idée ensuite, c'est pour ça que je mets, c'est Baudelaire que je mets en contrepoint. En tout cas, me concernant, il y a aussi l'idée de transcender cette laideur-là réellement comme pour accéder à autre chose, pour accéder à l'autre, pour accéder au partage. Et c'est peut-être ce qui nous différencie, Baudelaire et moi-même.
Avec le vent cause avec le nuage et s'enivre en chantant du chemin de la croix. Et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte ou bien s'enhardissant de sa tranquillité. Cherchent à qui saura lui tirer une plainte et font sur lui l'essai de leur férocité.
Raphaël Confiant, la question de la beauté et de la laideur traverse la société de l'époque, le 19e siècle, traverse l'œuvre de Baudelaire aussi. Il y a un procès retentissant au moment de la parution des Fleurs du Mal, parce qu'on l'accuse d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Certains poèmes sont censurés. Est-ce que c'est pour cette raison aussi que vous êtes intéressé à ces deux personnages, à Jeanne Duval et à Baudelaire, ou c'est aussi parce que c'est une période de basculement sur la perception de l'autre, ce que vous racontiez tout à l'heure, où tout d'un coup, c'est la première femme noire qui tient le haut du pavé parisien, même si elle est invisibilisée, et que ça marque quelque chose d'une évolution d'un temps qui nous amène aujourd'hui.
Il y a un peu des deux. Il y a d'abord la transgression, bien sûr. Hein. Ce couple est transgressif. Il choque la société, donc il fait quand même, il secoue les consciences, les imaginaires. Mais il y a aussi le fait que il y a une poétique révolutionnaire qui est initiée par Baudelaire, parce que avant lui, le beau ne pouvait émaner que du beau, alors qu'avec Baudelaire, un simple cadavre, par exemple, peut être magnifié par la poésie. Il n'y a plus de frontière entre le beau et le laid, entre le non désirable et le désirable, entre l'acceptable et le non acceptable. Il ébranle une espèce de muraille qu'il y avait entre les deux. Et ça, c'est novateur, de toute façon.
Raphaël Confiant, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre, donc La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire. C'est une scène du quotidien entre Charles et Jeanne.
Leurs premières étreintes lui avaient été rien moins qu'un enchantement. Elle se livrait à lui sans pudeur, mais sans extravagance non plus, acceptant ainsi toutes ses fantaisies, même les plus incongrues qu'il avait apprises auprès de Catin. L'odeur de son corps l'enivrait, le transportait dans un univers d'ineffable volupté, presque autant que ce darwamesque qu'il consommait certes modérément, au contraire des autres membres du club des Hachichines. Il avait d'ailleurs eu grand tort de croire que cette confiture verte, venue de l'Arabie heureuse, décuplerait ses sensations et le ferait accéder au mystère du langage. Mais les poèmes qu'il lui arrivait d'écrire péniblement au sortir de ses soirées agitées étaient d'une telle médiocrité qu'il s'empressait de les déchirer. Une fois, il avait surpris Jeanne en train d'essayer de recoller les morceaux de papier qu'il avait jetés dans un coin de son bureau, cherchant à les décrypter, ses lèvres agitées par un battement insolite. De colère, il les lui avait arrachées et s'était ensuivi une esclandre. La géante avait eu le dessus et l'avait plaqué contre un mur, lui attrapant les génitoires sans ménagement. « Tu ne recommences jamais ça, Charles. Jamais, jamais, jamais. Dans mon île de l'océan Indien, nous les femmes, des greluchons comme toi, on en étrangle tous les jours. »
Mais comment elle lui cause quand même traiter Charles Baudelaire de greluchon? On reconnaît en tout cas cette sensualité qui est propre à cette passion amoureuse entre les deux, mais qui est aussi la sensualité de votre écriture, Raphaël Confiant. Je vais vous citer, mais on ne naît pas dans l'odeur du rhum pour rien.
Absolument, c'est-à-dire que bon, il est vrai que nous bénéficions d'une culture dans laquelle, grâce à la langue créole, ont été récupérés beaucoup de vocabulaire des langues d'oil, parce que les premiers colons venaient de Poitou, de Vendée, de Normandie, etc., des mots qui sont inconnus aujourd'hui des Français moyens, ont été conservés dans la langue créole. Et grâce à cette conservation, nous, les auteurs antillais, nous sommes en quelque sorte un peu privilégiés par rapport à ceux qui écrivent en français moderne.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de mots rares dans ce roman. Oui. J'en ai cité quelques-uns, enfin déjà, et puis je peux en noter d'autres. Médicastre pour médecin, raccrocheuse ou étaire pour prostituée, un gant d'amour, ça c'est pour nommer le préservatif, et puis ce mot très beau, un sentiment d'heureuseté.
Oui, mais ce n'est pas des mots inventés, contrairement à ce que beaucoup...
Mais oui, j'ai vérifié, ils existent tous.
Ah non, ce n'est pas des mots inventés. Alors, ce n'est pas le français moderne, bien sûr, mais il fallait que je retrouve un peu, à travers le lexique, l'atmosphère langagière, je dirais, du 19e siècle. Il était hors de question d'écrire en français du 21e siècle, ça n'aurait pas de sens. Bon. Et ce travail est facilité par le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans notre langue créole, nous avons conservé énormément d'éléments des premiers dialectes d'Oyle parlés par les colons du XVIIe siècle et des mots qui sont, disons, inconnus du locuteur moyen. Je prends souvent l'exemple de Brienne, qui signifie stérile. Personne, très peu de gens savent ce que ça signifie. Mais pour nous, alors il n'y a pas que ce mot-là, il y a des tas d'autres mots. Quoi.
Et comment vous avez entendu et écrit le mot de nègre ou de négresse,
oui.
Mot utilisé par Baudelaire lui-même, oui. Pour parler de Jeanne, il lui dit voilà. Ma belle négresse ou ma belle mulâtresse. Comment vous le transcrivez, vous ?
Alors, il faut quand même qu'on soit très conscient d'une chose qui est peu connue hors des Antilles. La langue créole a transformé le mot nègre dans le sens de homme, d'individu. C'est le premier sens. C'est pas le sens de nègre au sens français du terme. D'ailleurs, pour dire de quelqu'un, pour préciser la couleur de peau, parce que nous sommes une société métissée, on dit nègre rouge, nègre noir, nègre bleu, etc. Et on ajoute une couleur derrière. Ce qui montre bien que le mot nègre qui est devant ne correspond pas au mot nègre français. Et aux Antilles, le mot nègre n'est absolument pas un terme péjoratif grâce au fait que la langue créole a transformé son sens pour signifier un individu. Voilà.
Même aujourd'hui.
Même aujourd'hui. Et d'ailleurs, Césaire a écrit un livre qui s'appelle « Je suis nègre et je t'emmerde ».
C'est
provocateur. Et bon, il le prend dans le sens mi-créole, mi-français. Mais je veux dire que je suis effaré de voir que la cancel culture, comme on dit, diabolise, qu'aux États-Unis, on écrit N-word, N-point-word, tellement on a peur de dire le mot Negro. Mais c'est absurde. Non, aux Antilles, le mot nègre, il est courant, quoi. C'est pas une insulte.
Donc vous utilisez le mot naturellement.
Naturellement.
Et Jeanne Duval dit qu'elle est une négresse blanche ou une blanche négresse. Ça pose pas de problème.
C'est pas jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un mot qui nous choque du tout, non.
Merci Raphaël Confiant.
C'est moi qui vous remercie.
La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire est éditée au Mercure de France. Et en lisant votre roman, votre enquête romanesque, je me suis dit ça ferait un film.
Tout à fait, c'est-à-dire que Jeanne mériterait pas un blockbuster américain quand même. J'ai très peur que les Américains s'en emparent, parce qu'ils ont des acteurs noirs formidables, hein, des grandes actrices noires. Mais un film où la part de la littérature serait quand même importante. Il n'y a pas que la relation amoureuse. Il y a tout ce travail d'écriture dans lequel elle a participé. Et ça, ça mérite un film, effectivement.
Donc vous y pensez ?
Oui, tout à fait.
Pour quelqu'un d'autre, pas pour vous ?
Ben écoutez...
On verra.
Je ne suis pas cinéaste.
Merci beaucoup, Raphaël Confiant. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Abolo, Guillaume Ploquin. À très vite.